Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous. Bon petit déjeuner, bon réveil. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme tous les week-ends pour évidemment parler de sport dans la bonne humeur. Ça va frictionner un peu, forcément vous nous connaissez, c'est les grandes gueules du sport. En tout cas, merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter en direct ou alors en podcast. Vous aimez bien aussi nous écouter, voilà, l'après-midi, tranquillement chez vous. En tout cas, nous sommes là pour vous divertir, mais aussi pour vous apprendre des choses avec des grands champions, comme d'habitude dans cette émission. Au sommaire aujourd'hui, arbitre escorté, entraîneur qui se plaignent, dirigeant au bord de la pelouse. La fin de match entre Marseille et Lille a été très tendue. Hier, la Ligue 1 est-elle devenue insupportable avec l'arbitrage? C'est la une des GG dans quelques instants. Tadej Pogacar a dévoilé cette semaine son programme gargantuesque pour 2024. Les trois grands tours, le champion slovène doit-il tenter le pari fou? Ce sera le bras de fer des GG et ce sera un 2 contre 2. Et puis ce soir, sur RMC, c'est l'événement avec l'interview exclusive de Neymar. Ce sera dans l'émission Bartoli Time avec Marion Bartoli et Benoît Boutron à partir de 19h30. Il veut absolument faire la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Pas Benoît Boutron, pas Marion Bartoli, mais Neymar, évidemment, une superstar. Peut-elle devenir un boulet pour sa sélection? On ouvre le débat à 11h. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Miss France, quand il va dans un salon, c'est devenu une bête de foire. David Douillet, salut David.
Eh ouais, c'est vrai. Salut tout le monde.
Attends, j'ai fait quelques salons avec toi, mon cher David. À chaque fois que tu vas quelque part, c'est selfie, c'est autographe, une rockstar, ouais. C'est incroyable. Hein.
Faut pas exagérer, c'était le salon de l'agriculture, on va pas s'enflammer non plus. Hein.
Oui, moi je t'ai aussi vu au JO et tout ça, enfin, je veux dire, on peut pas faire 2 mètres avec toi quand il y a du monde autour, c'est impossible. Non mais il faut le savoir.
Oh, t'exagères un peu, mais bah, c'est sympathique.
C'est
mais
les doubles
j'ai regardé hier soir avec... Ça. Oui. J'ai regardé hier soir avec ma fille de 8 ans l'élection de Miss France. Franchement, Miss Martinique est très 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 sympa, très jolie.
Très bien. On aura évidemment un avis sur Miss France un peu plus tard dans cette émission. Peut-être un débat, je ne sais pas, peut-être le débat caché. On verra à 11h30. Une grande gueule qui, comme Miss France, il est contre la guerre, mais pour le dopage. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Salut à toutes et à tous.
Toi aussi, t'as regardé Miss France hier?
Pas du tout.
Pas du tout. Non. C'est pas une habitude chez les Pinault?
Salut TT, ça ne l'est plus.
Ok, ça y est, ouais. On a arrêté.
Bah, on a arrêté, c'est-à-dire qu'avant.
On vit avec son temps, monsieur.
Je suis en galle d'alternée, je n'avais pas mes filles et j'avais autre chose de mieux à faire hier soir, donc j'ai pas regardé l'élection.
Ok, à mon avis, ça sent les copains en région parisienne, j'ai bien compris.
Pas du tout, je débarque dès ce matin de ma Bretagne.
Non.
Et oui.
Mais fais attention sur la route d'été.
Je fais très attention. Okay.
Bon, on compte sur toi.
Ne t'inquiète pas.
Je sais que tu bosses ton émission comme ça.
Évidemment, j'écoute la RMC dès 5h30.
Okay.
Cette fois, je me mets à la page, je lis l'équipe. J'écoute l'équipe.
Oui, oui. Et tu as vu des arguments. Oui, parce que tu es quand même tout seul au volant. Une grande gueule qui, comme Miss France, il est anormalement âgé. Christophe Cessieux. Salut Christophe.
J'ai les Miss France.
À 34 ans, c'est une première trentenaire.
Ah,
ouais,
bah, c'est bien,
c'est
ça.
La première fois dans l'histoire, 34 ans.
Ça me redonne du courage.
Tu faisais quoi à 34 ans, toi?
Je draguais les Miss France.
Okay. Et plus maintenant?
Maintenant, elles ne me regardent plus.
Oui, c'est ça.
À ton âge de tes filles, mon Christophe.
Exactement. Et alors, hier soir, il y avait toute une réunion, ma nièce, ses copines, ils étaient tous devant Miss France. Je me dis, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Dans ma génération, personne ne regardait Miss France.
Ouais.
Personne.
Et comme quoi, ça marche toujours.
Et comme quoi, bah, ça remarche, quoi.
Toi, à ton époque, Miss France, c'était Geneviève de Fontenay, non?
Qui était élue patate.
Okay. Je vais reprendre la main, sinon ça va déraper, je le sens. Et puis une grande gueule qui, comme Miss France, il est anormalement grand, c'est Fred Weiss. Salut Fred.
Salut.
1m83, Miss France.
Ouais, c'est bien.
Et toi?
Un peu plus.
Elles sont un peu plus fines quand même, hein, je peux pas dire. Mais...
Voilà, tout de suite, on attaque sur
Non, mais attends.
Je suis hyper fin, tu vas
pourrais être Miss France super big, quoi, ça peut exister aussi. Hein.
XXXXL, tu veux dire?
Vous voyez, ça voilà. Tu devrais pas dire ça quand il y a David Douillet, Fred Weiss, tu vas prendre les deux dans le buffet, dans pas longtemps.
Mais non, mais laisse tomber, Fred, ne réponds pas, c'est parce que c'est de la jalousie encore. Voilà.
Ça doit être ça. Bon, en tout cas, sachez, déjà bravo à Miss France, évidemment. Et puis, sachez que c'est bientôt Noël, les copains, c'est dans 10 jours. Et sur RMC, jusqu'à Noël, on vous couvre de cadeaux, évidemment, dans cette émission. Une PlayStation 5 Pro, un iPhone 16, 10 000 euros, beaucoup, beaucoup de cadeaux sont à gagner sur RMC. Plus de 100 000 euros de cadeaux. Restez bien à l'écoute de cette émission. Nous aurons un nouveau gagnant en compagnie du Père Noël, évidemment. Donc restez bien avec nous. On va débuter cette émission avec cette citation de Francis Picabia qui a dit un jour, il n'y a qu'une chose presque absolue, c'est le libre arbitre.
La une des grandes gueules du sport.
Qu'est-ce qu'il va faire Rabiot? Il va te servir, Nils Mopé. Oh, le crochet, il est parfait. Et ça finit au fond. C'est Quentin Merlin. C'est Quentin Merlin à la conclusion de ce contre-éclair pour les Olympiens qui ouvrent le score.
Et là, il y a une faute et un carton jaune.
On est Crotat en retard en plus de la part de Pierre-Emile Heubier sur Rémi Cabella.
C'est parti, le pied droit de Cabella au second poteau. La tête. Oh, l'égalisation de la tête. Signé par Bafodé, Jacquitel. Les Lillois sont immortels.
Oh, la grosse faute sur Jonathan. Je ne sais pas s'il y aura un carton jaune, probablement. Monsieur Delageau, il est un peu en train de perdre le fil par rapport à certaines décisions. Ce ballon au milieu de terrain, duel gagné par Pierre-Emile Heubier. On revient à la faute. À quelle faute d'ailleurs? Le vélodrome est assez dubitatif. Rabiot qui va mettre ce ballon dans la surface. Il est peut-être bousculé, Jonathan Drouin. Monsieur Delageau estime qu'il n'y a pas faute. Il a fait signe tout de suite.
Et rouge, carton rouge.
Carton rouge pour un Marseillais. Hein.
Ouais. Ouais. Pour Lirola.
Pour Paul Lirola. Et c'est terminé. C'est fini au vélodrome. C'est très tendu sur la pelouse. Le vélodrome qui est resté. Tous les supporters sont là et qui s'en prennent un peu à l'arbitre de la rencontre. On espère que ça ne va pas dégénérer dans les couloirs. Un partout entre l'OM et Lille.
Au commentaire, Florent Germain, hier, pas une journée de Ligue 1 ne se passe sans que les acteurs du foot ne critiquent l'arbitrage. C'était donc encore le cas, vous l'avez entendu, après la rencontre Marseille-Lille. Hier, en fin d'après-midi, une fin de match extrêmement tendue. Willy Delageau, l'arbitre du match, a dû quitter la pelouse du Vélodrome sous escorte. Le président du LOSC, Olivier Létang, et le directeur sportif de l'OM, Mehdi Benassia, sont descendus sur le terrain. Les deux équipes avaient des choses à reprocher à l'homme en noir, chacun estimant s'être fait léser. Preuve que le VAR, mais ça on en a souvent parlé dans cette émission, n'a rien réglé du tout. La musique qui fout les jetons. Et cette question, la Ligue 1 est-elle insupportable avec l'arbitrage? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Complètement.
C'est oui. David Douillet.
Non.
Fred Weiss.
Oui.
Jérôme Pinault.
Oui.
Alors avant de vous écouter religieusement, évidemment, écoutons les acteurs de la rencontre. Roberto De Zerbi, coach de l'OM, et Bruno Genesio, coach de Lille. Tous les deux s'en sont pris à l'arbitre.
Non, ça, secondo me, oggi l'arbitre non ha fatto una buona gara.
Pour moi, l'arbitre n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Il n'a jamais maîtrisé le match. Il y avait un pénalty clair sur Rongier et une grosse faute sur Luis Enrique que même moi, depuis le banc, j'ai vu. C'est dommage car ce genre de match mérite un meilleur arbitrage. Je parle rarement des arbitres, mais là, il y a eu trop d'erreurs.
Favorisé? Je pense qu'on n'a pas vu le même match, vous et moi. Je ne sais pas si pour répondre à cette question. Vous l'avez vu le match, vous? Vous l'avez vu où, à la télé ou au stade, vous l'avez vu? Ah bon? Non, parce que si vous avez vu que l'arbitre nous a favorisés, vous ne deviez pas être dans la bonne tribune, je pense. Je pense qu'il peut siffler un pénalty sur Haraldsson en première mi-temps. Et effectivement, le hors-jeu sur lequel il revient alors qu'on a une situation de 2 contre 1. Alors, je ne dis pas qu'on aurait marqué sur cette action, mais je pense que dans l'esprit du jeu, c'était bien de laisser jouer.
La Ligue 1 est-elle insupportable avec l'arbitrage? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Vous avez écouté évidemment les deux coachs. Il y a eu d'autres réactions durant cette rencontre et toutes les semaines, à chaque fois que nous passons en revue l'actualité de la Ligue 1, il y a toujours un dirigeant, il y a toujours un entraîneur, il y a toujours un joueur pour se plaindre de l'arbitrage. Venez nous dire évidemment ce que vous en pensez. Christophe Cessieux, tu as vu attentivement, tu étais sur l'antenne hier d'RMC, tu as vu attentivement cette rencontre, extrêmement plaisante, mais au final, on retient l'arbitrage.
Et puis, au bout du compte, on retient que les deux entraîneurs sont fâchés. Chacun a ses arguments. Donc, deux partout, balle au centre, normalement, ça fait match nul à la fin, ça s'est terminé par un match nul. Donc, ils devraient finalement être contents, mais non, ils ne sont pas contents. Ils ont toujours l'impression d'être floués et qu'on leur plante un couteau dans le dos, que les arbitres ne les arbitrent pas à la faveur de leur qualité, qu'il y a une sorte de complot contre eux, voulu par des dirigeants qui se situeraient dans la galaxie et qui viendraient empêcher Marseille de devenir une grande puissance européenne. Ils sont complètement tous ces dirigeants, tous ces entraîneurs. Vous avez vu la Benassia et Létang qui sont venus derrière le truc de l'arbitre. Ils étaient debout en chemise et veste noire, prêts à faire le coup de poing. On aurait imaginé qu'ils avaient un coup de poing américain dans la poche ou un couteau pour aller Non, mais c'est des dingos. C'est des dingos. Ça se passe comme ça toutes les semaines. Plutôt que de faire son mea culpa, de se dire, ouais, aujourd'hui, ben, on a pas été bon sur certains domaines. On aurait dû peut-être mettre un peu plus de buts pour espérer. Non, ben non. C'est toujours la faute de l'arbitre. C'est jamais leur faute à eux. C'est insupportable. Insupportable. Et c'est de pire en pire. En rugby, on a aussi de temps en temps des arbitres qui se font houspiller par des entraîneurs. Il y a eu le cas récemment de Jean-Noël Spitzer, qui est l'entraîneur de Vannes. Et on a vu le monde du rugby se lever comme un homme contre cette décision. Il a pris un communiqué de la part de la Fédération française. Il va être sévèrement puni. On ne sait pas encore la durée de sa sanction. Mais c'est la seule solution pour faire taire ces idiots. C'est les punir, c'est les virer de banc, virer de vestiaire pendant un mois, deux mois. Et pourquoi pas priver le club de points ? Ce sera la seule façon de les faire taire et que le foot reste le foot et qu'on se régale pendant trois quarts d'heure. Parce que deux fois trois quarts d'heure. Parce qu'hier, ce match, franchement, jusqu'à la 87e minute, il était super plaisant. Moi, j'étais fier de voir une vraie qualité de jeu. La Ligue 1, franchement, c'était un match de Ligue des Champions. La Ligue 1, quand elle se joue comme ça, elle est plaisante. Mais quand elle se vit comme ça, quand elle se dit comme ça par ces idiots à la fin du match, eh ben, franchement, ça me gâche mon plaisir.
C'était le coup de gueule de Christophe Cessieux, vous l'avez bien entendu ce matin. Jérôme Pinault, toi, le supporter de l'Olympique de Marseille, est-ce que tu te sens un petit peu lésé ce matin en regardant ce match hier face à Lille, où tu te dis, bah non, finalement, il y a peut-être eu des erreurs, et personne ne dit que, et je pense que même l'arbitre lui-même, personne ne dit jamais, non mais il ne fait jamais d'erreur et tout ça. Mais à chaque fois, c'est toujours, au lieu de pointer du doigt ses propres faiblesses et ses propres problèmes, bah on pointe du doigt l'autre. Et ça, c'est un peu embêtant quand même.
Non, alors, moi, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, je trouve que hier, on est bien payé, que le match peut largement tourner à l'avantage de Lille, bien avant le premier but de Quentin, et que les entraîneurs subissent des pressions aussi de ce qui se passe dans la tribune. Moi, ce qui me rend hors de moi, mis à part le fait que De Zerbi sorte les deux joueurs les plus importants et qui déséquilibre son collectif, parce que lui aussi fait des erreurs. Il le dit pas en conférence de presse, mais l'arbitre, ça passe après. Je pense que les erreurs viennent de lui d'abord. Ce qui me fout hors de moi, c'est qu'à la 70e minute, 15e minute, on a déjà les deux directeurs sportifs des deux clubs dans le couloir, quoi. Le président et Benatia. Ils n'ont rien à faire là, pour moi, ça devrait être interdit. Et ça met une espèce de pression supplémentaire à ce qui se passe 20 minutes après, c'est-à-dire le tacle assassin de Lirola sur le Rennais. Enfin, le rouge, il est largement mérité. Et tout ça fait monter la mayonnaise, ce soir.
Alors, il fait cette action parce que il estime que l'arbitre n'a pas sanctionné une faute, sur Rabiot qui filait au but. Reste debout et continue son action. Donc,
Et le tacle, quand tu le revois ralenti, il a déjà de la chance de pas avoir cassé la jambe de son adversaire. Donc, le carton rouge, il est là. Et après, derrière tout cela, c'est cette espèce de pression mise par les dirigeants du club qui passe par le banc passe par les joueurs, et c'est toujours la faute de l'arbitre. Mais l'arbitre, hier, il n'a pas fait le meilleur match de sa carrière, peut-être, mais les présidents non plus et les entraîneurs non plus. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'ils prennent un peu de la mesure. Ils sont la représentativité du football en général et de leur club. Et c'est encore une fois mettre à mal les 80 premières minutes dans lesquelles on s'est régalé, en fait. Parce qu'un match de cette haute intensité, comme tu l'as dit, Christophe, moi j'étais fier de la Ligue 1 hier.
Ouais,
le match de Lyon en Europa League contre les Allemands cette semaine. Là, ce match-là, très honnêtement, tu commences à être fier d'avoir deux belles équipes. C'était un vrai beau match. Et là, il faut que les dirigeants se disent, et quelque part, c'est ça, moi, la question, c'est pourquoi ils font ça, quoi ? Est-ce que c'est parce que leurs équipes sont belles, on va parler que du jeu et pas d'eux ?
Ça me pose un vrai problème. On peut prendre leur responsabilité et je vais lancer David.
Tu fais un partout contre Lille, tout va bien. Enfin, je veux dire, c'est un match équilibré dans lequel tu prends chacun un point.
Non, parce que De Zerbi avait dit c'est un match à 9 points. Il comptait sur ce match pour revenir sur le Paris Saint-Germain.
Oui, mais De Zerbi, c'est un homme de terrain. Quand il voit le match, il se dit c'est logique, le score terminé, comme tu dis, un partout.
Sans doute l'a-t-il revu dans la nuit. Et ce matin, il sera sans doute calmé. Le problème, c'est qu'il parle tellement vite après
c'est
le match, ils sont pleins d'adrénaline.
En fait, l'arbitre est devenu l'excuse ultime. C'est-à-dire qu'en gros, on parle plus des joueurs. Les joueurs, quand ils sont mauvais, c'est l'arbitre. Quand les coachs sont mauvais, non, c'est l'arbitre. Ça devient d'une facilité absolue. Pourquoi à chaque fois pointer du doigt un mec, ou et plusieurs d'ailleurs, qui ferait des erreurs? Effectivement, c'est pas les seuls à faire des erreurs. Ils font des erreurs. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas le fait qu'on critique, qu'on dise qu'ils font des erreurs, ce qui est normal et ça arrive à tout le monde. C'est qu'on ait l'impression de dire, oui, ils sont contre nous, etc. Mais quel est l'intérêt intérêt pour les arbitres d'être contre un club. Ils sont là pour faire leur taf. Quand ils le font pas bien, ils sont notés, déjugés et peut-être rétrogradés. Donc eux, leur intention, c'est de le faire le meilleur match possible. Mais encore une fois, c'est des êtres humains qui font des erreurs.
Ok, David Douillet ne pense pas comme vous. Pourquoi, David ?
Parce qu'au départ, je trouve que le procès face aux arbitres, il est injuste. Et Fred a commencé à dévoiler l'histoire. C'est-à-dire que ce ne sont que des hommes qui font ce qu'ils peuvent sous des pressions colossales, en particulier dans le foot. Et c'est pas simple. C'est pas simple d'avoir cette pression du public, des dizaines de milliers de personnes autour d'eux, des gens surexcités de part et d'autre, chaque côté sur le banc. Des joueurs qui sont, et j'ai été athlète quelquefois de mauvaise foi aussi. Mmh. Et en général, et vous avez décrit la situation il y a quelques minutes, il s'agit d'une espèce d'escalade. C'est-à-dire qu'une mauvaise décision peut enchaîner une frustration chez un ou plusieurs joueurs. Et ensuite, une faute qui est issu de cette frustration qui a été jugée injuste par le joueur, décision arbitrale au démarrage, et puis s'enchaîne une faute qui... Mais c'est n'importe quoi. On n'est pas dans les rues avec des gangs qui se disent, qui se rejettent la pierre en disant c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as versé le premier sang, il a été arrêté par un policier injustement à cause de toi, donc je vais me venger, etc. C'est du sport. Faut que tout le monde revienne à la raison. Ce n'est que du sport. Oui, d'accord. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont largement mis en avant par les présidents de clubs, par les dirigeants, avec des dizaines de millions à la clé, etc., etc. Il y a des enjeux financiers. Messieurs, les dirigeants, si vous n'êtes pas capables de gérer la pression financière, faites autre chose.
Mais c'est ça.
Et n'emmerdez pas le sport. N'emmerdez pas le sport. Parce que c'est vous qui emmerdez le sport au départ.
Et David.
C'est cette pression malsaine qui se traduit sur le terrain à travers des joueurs qui sont là pour s'exprimer, qui sont à fleur de peau, qui sont des passionnés, et on retrouve cette passion malsaine qui vient polluer les interactions qu'il peut y avoir entre un arbitre qui peut commettre des erreurs mais qui fait ce qu'il peut et des athlètes qui sont sous pression parce qu'il y a d'énormes sommes.
Mais les athlètes, c'est normal, leur cœur est à 200. C'est difficile parfois de se contrôler. Mais les mecs qui sont dehors, qui ont des responsabilités, les entraîneurs, les présidents, eux, leur cœur devrait être plus bas. Ils devraient avoir l'habitude de faire ça et gérer justement. Ils devraient transmettre
ce que j'ai dit. Apaiser. Hier, il y avait une espèce.
Merci Fred, c'est ce que j'essaye de dire. Merci.
Benassia et Létang qui descendent hier en fin de match.
Mais non, ils se mettent là où chacun
du côté.
On avait l'impression qu'ils avaient envie de faire le coup.
D'en découdre.
On avait l'impression qu'ils allaient se battre, quoi. Qu'ils planquaient une barre de fer derrière eux pour mettre sur la gueule de l'autre. C'est une façon de faire, de voir.
Tu as raison, Christophe, c'est pas moi. Enfin, je voulais juste dire ma conclusion. Ce ne sont pas les arbitres qui polluent la L1, pour moi. Ce sont la pression des dirigeants vis-à-vis de leurs entraîneurs et de leurs joueurs. C'est ça la réalité.
Et pour compléter ce que tu dis, David, hier, typiquement, les dirigeants ne font qu'envenimer les choses. Les joueurs sont en fin de partie. C'est très serré, ils le savent. Les deux clubs avaient un gros intérêt de points hier. C'est très important et c'est un sommet. On l'a vu, on l'a dit, c'était beau sur le terrain. Le comportement d'un dirigeant qui dirige, et comme le dit David, s'ils ne sont pas capables de ça, il faut qu'ils changent de métier. Oui. Ils sont descendus mettre le feu aux poudres.
Mais t'imagines le joueur qui est sur le terrain, comme par hasard, descendre comme ça. C'est
comme par hasard, Lirola, il est le long du banc, du côté du banc, tout près du couloir. Parce que lui, il joue ce côté-là, et qu'il voit que ça monte, il entend que ça s'engueule, ça s'insulte. On est tous, moi en tout cas, pour le micro sur l'arbitre et entendre ce qui se passe. Mais il ne faut pas, hein. Parce que moi, hier, des gamins de 7-8 ans qui écoutent ce qui se dit sur les bancs et sur le terrain, je pense que des parents, ils coupent la télé. Il est là, le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, le verbal devient une agression, il faut sanctionner avant même. Et comme le dit Christophe, le joueur du rugby, un tiers de ce que dit le joueur du rugby à l'arbitre, il est dehors et suspendu pour plusieurs matchs par rapport à ce que peut entendre un arbitre.
Oui, mais les arbitres sont soutenus aussi, c'est différent. Il faut soutenir les arbitres, ils sont soutenus par tout le monde, par la fédération, et bien sûr.
Non, il y avait un petit problème de micro, mais ça y est, c'est rétabli, mon cher Christophe. Bah justement, on va en profiter, parce que vous êtes excellent sur ce débat, pour marquer une petite pause, et on reviendra dans quelques instants. Supporters de Lille, supporters de l'OM, venez nous dire ce que vous en pensez. Vous avez peut-être pensé que l'arbitre n'avait pas fait le meilleur match de sa vie. D'ailleurs, justement, j'ai souvent ces commentaires sur le Direct Studio, notamment Charlie, qui me dit l'arbitre a été nul, point. Et le problème, c'est que toutes les semaines, ça revient. Alors peut-être que le niveau de l'arbitrage est ça, c'est aussi un débat, on peut en parler, mais sans sans faire de démagogie, le principal problème, c'est qu'après, sur tous les terrains du samedi, du dimanche, des enfants, eh ben, on râle après l'arbitre parce que c'est normal, parce qu'on le voit à la télé. Et à un moment donné.
À mort l'arbitre.
À un moment donné, les dirigeants devraient se dire, OK, bon, bah, l'arbitre a peut-être pas été super bon, mais moi, est-ce que j'ai été suffisamment bon pour gagner ce match? On continue la discussion, il est 9h29 sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h31 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Fred Weiss, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault. Restez bien avec nous dans 10 minutes, on s'en fout pas, c'est le zapping des GG. Avec notamment l'UCI qui veut interdire le monoxyde de carbone. Est-ce que les GG ont lancé un vrai débat, une vraie grenade dans le monde du cyclisme? Il y a deux semaines, on s'emparait du débat. Ça a beaucoup fait réagir, ça a été repris partout. L'UCI a décidé de trancher. On va en parler dans une dizaine de minutes. Enfin, on va en parler, si ça vous intéresse. Mais j'espère, les copains, il y a Jérôme Pinault, on a initié ce débat. Je serais extrêmement fâché, mais bon. Vous ferez évidemment.
Vous faites ce que vous voulez, mais je serai fâché si vous ne
enfin,
voulez
après, pas. Après, on discutera d'argent ensemble, de contrats et tout ça. Mais vous ferez évidemment ce que vous voudrez en âme et conscience. Restons sur notre premier débat après ce match. Très beau, hein, entre Marseille et Lille, un partout, score final. Un match à la fin où l'arbitre a été extrêmement critiqué. Et on ne voudrait pas s'arrêter sur les dirigeants lillois et les dirigeants marseillais, parce qu'ils sont tous logés à la même enseigne. On vous a fait un petit medley depuis le début de la saison, par exemple avec Francaise, Will Steele ou encore Pierre Drey aussi, parce que depuis le début de la saison, à chaque week-end, chacun a sa petite sortie sur l'arbitrage.
C'est toujours bien de reconnaître pour tout le monde les erreurs qu'on peut faire. Et on a parlé d'une erreur qui était pour le coup tellement évidente, puisqu'on a même eu la VAR. Les échanges, c'est presque encore plus inquiétant. C'est lunaire. On jouait à Lyon, mais on était sur la Lune, là. Moi, ça m'interroge beaucoup. J'aurai un échange avec la commission demain, c'est une bonne chose, mais j'ai du mal à comprendre.
À partir du moment où l'arbitre est à 1m50, 2m de la phase, et qu'il décide, lui, de ne pas siffler faute, ça me paraît compliqué, mais on peut parler de tout ce qui se passe avant, parce que on peut les énumérer, mais ça fait beaucoup de décisions qui sont contestables. Faut pas chercher midi à 14h. On me raconte qu'à la mi-temps, il y a un cinéma pas possible dans le tunnel pour mettre la pression sur l'arbitre.
J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on marque un but ou qu'on a une action litigieuse, j'ai l'impression qu'on a maintenant une peur bleue de la VAR. J'ai envie de dire stop aujourd'hui. Stop. Parce qu'on ne peut pas nous prendre des points comme ça et ne rien dire. Je ne suis pas énervé, mais je pense que ce soir, le score, c'est 2-2. À force, on se pose, nous, beaucoup de questions, et ça se répète un peu trop.
Et chaque week-end, c'est le même cinéma sur l'arbitrage. Il y a Joris, supporter de l'OM, qui nous appelle justement. Il veut participer à notre discussion. Bonjour Joris.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Eh bien, on est très heureux d'avoir un supporter marseillais ou lillois ce matin, justement, pour nous dire ce que vous avez pensé de la rencontre hier. Et on se pose cette question ce matin. À un moment donné, est-ce que la Ligue 1 est vraiment insupportable avec l'arbitrage? Joris, tu en penses quoi?
Bon, à mon accent, vous allez très vite comprendre quelle équipe je supporte.
Lille.
Exactement. Exactement. Non, j'ai appelé, je viens de monter dans ma voiture, j'ai entendu Christophe faire un plaidoyer sur l'arbitrage, sur les critiques qu'on pouvait en émettre. J'ai la tension qui est montée. Hier, le match, terrible. Au stade, bonne ambiance, deux belles équipes, on s'est régalé. Mais à la fin, la seule chose dont on parlait, et c'est ce qui est grave en vrai, c'est qu'on parlait d'arbitrage. Et même, et je vais attaquer par ça, comme ça au moins on pourrait dire que je suis un peu neutre, même si c'est pas trop le cas. Mais il y a une action pour les Lillois à un moment, c'est anti-football qu'a sifflé l'arbitre. Anti-football. Il y a un hors-jeu inexistant pour l'OM, il n'y a même pas le ballon qui arrive. Lille a un contre, ils sont 4 contre 2. Il revient sur leur jeu. Il n'y a que lui qui sait pourquoi il revient sur leur jeu. Personne ne comprend rien. Donc là, déjà, ça fait monter tout le temps, en fait, la sauce. Et puis après, sur les actions, en parlant que du match hier, et après, je parlerai un peu plus en général, sur l'action des deux, trois actions qui sont litigieuses, on nous a vanté les mérites de la VAR, que c'était bien, que ça allait nous aider. Et en fait, ça crée encore un problème, puisqu'ils ne font même pas appel à la VAR, où ils se parlent entre eux, et on ne sait pas ce qu'ils se racontent. Donc à la fin, eh ben, il y a peut-être deux pénalties ou pas. Ça, après, c'est le sport. Hein. Après, c'est pas parce qu'il y a des pénalties qu'il aurait mis aussi. Ça, c'est encore autre chose. Et puis, et ça continue comme ça. Et puis même sur l'action du but lillois, alors j'étais déjà assez énervé en rentrant. Ce matin, je me lève en buvant le café et je vois qu'il y avait une faute peut-être sur Balerdi. Et c'est exactement le même style de faute qu'ils nous ont sifflé pour nous à Lens, qui a invalidé le but lensois. Et qui nous a permis de tirer un coup franc. Donc en fait, je peux comprendre aussi que les dirigeants, ils en aient marre, parce qu'il n'y a pas d'uniformité dans l'arbitrage. C'est trop fluctuant selon les matchs. Et puis ensuite, ben, ça je le dis souvent, quand il n'y a qu'une personne qui se plaint, Mais c'est peut-être elle la personne.
Ah, c'est quand même plus facile que tout le monde se plaigne d'une personne qu'une personne se plaigne de tous les autres.
Oui, mais quand tout le monde se plaigne d'un système d'arbitrage, c'est que peut-être il y a un problème.
Tu as raison. Et là où c'est très intéressant, Joris, tu dis quelque chose de très intéressant. Et c'est vrai que tu parles du VAR. Est-ce que le VAR a renforcé le côté parano? Parce que on va plus. Et vous l'avez entendu dans quelques déclarations, et vous en avez peut-être en mémoire. Il n'y a plus que le. Il s'est trompé. Il y a. Ben oui, mais ça fait beaucoup parce qu'on nous en veut un petit peu. Il y a ce côté un petit peu victimisation. Est-ce que c'est le VAR qui a renforcé ça à un moment donné?
Je pense que le fait de mettre cet outil-là est un plus. Après, il faut jamais oublier que c'est de l'interprétation. Et l'interprétation humaine, et encore pire, l'interprétation humaine devant 70 000 spectateurs qui veulent te faire la peau, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision que tu vas prendre. Donc c'est très compliqué. Moi, je suis pour la VAR pour ça, pour qu'on donne un outil supplémentaire à ce pauvre gars qui est là au milieu. Après, moi, le message que j'ai aussi à dire, c'est que si tout le monde était excellentissime dans tout, dans la direction des clubs, dans le management des clubs.
Non, mais par définition, on est humain, c'est pas possible. Par définition, être excellentissime,
c'est pas possible. Tout le monde fait des erreurs. Laissons la place à l'erreur. Moi, hier, j'ai pas vu d'erreur manifeste de l'arbitre. Des décisions, il y en a eu des moyennes prises pour chaque camp. J'ai vu deux équipes sur un terrain qui étaient de même niveau. Je pense que les supporters marseillais peuvent être comme moi déçus de certains changements aussi de l'entraîneur et parler d'autres choses à la buvette aussi de l'exploit de Rulli. Et puis il faut jamais oublier de dire que dans les clubs, moi qui suis très proche du club de mon village, ils cherchent des arbitres. Faut y aller les gars.
Mais il y a une crise. Oui, mais sauf qu'il y a une crise de vocation à cause de ça, parce que à force de taper sur les arbitres, à force de voir les grands,
et
les
c'est
grands
pareil à tous les niveaux. Hein. Le débat c'est en Ligue 1 et c'est en Régional 2 à Ligue de Bretagne. L'arbitre, c'est tous les week-ends qu'il en prend.
Sauf que ça commence par la Ligue 1. C'est eux qui sont l'exemple, c'est eux qui sont la vitrine. Et c'est quand même
quel est le pire métier de France à votre avis? Arbitre, huissier de justice, ramasseur. Je sais pas quel est le pire que personne n'a envie de faire.
Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on critique beaucoup nos arbitres, mais nos arbitres sont reconnus à l'étranger quand même. Qui a arbitré la finale de dernière Coupe du Monde? C'est un arbitre français. Donc à un moment, ok, on peut dire qu'on n'est pas bon, ok, on travaille pas bien.
La finale de l'Euro, pardon. Le Texier.
Donc je me dis, comment on peut se dire ça d'un côté et de l'autre côté se dire que nos arbitres sont suffisamment reconnus pour arbitrer
souvent en début de saison? Vous les avez tous vus ces reportages, et nous sur RMC Sport, rmcsport.fr, vous les avez. Les arbitres sont allés dans les clubs pour parler des nouvelles règles, pour dire voilà, tout le monde a un discours d'apaisement, et tant mieux, hein, je suis pas en train de critiquer ça, mais voilà, là tout le monde s'entend et tout ça, et dès la première, deuxième journée, c'est parti. Alors que cette saison, la FFF a mis en place quelque chose qui est vraiment sympa pour le coup. La direction de l'arbitrage de la FFF prend chaque situation le lundi des matchs de Ligue 1, et s'il y a erreur de leur part, ils reconnaissent leur tort. Donc c'est déjà une avancée, c'est-à-dire que les arbitres maintenant, et c'est déjà arrivé au micro des diffuseurs, viennent expliquer
dans les staffs des clubs de rugby du top 14, et ils ont quasiment tous les clubs ont engagé un arbitre pour venir dire voilà quelle décision je prendrai dans ce cas-là et tout ça. Et d'abord il y a un rapport qui s'institue entre les joueurs et les arbitres, et ça ne peut aller que mieux. Bah, on a l'impression que ce sont deux mondes opposés qui se regardent dans le chien de faïence. Bah, il faut essayer de
faire discuter. Il y a déjà des choses faites, hein, puisque Michael Landreau, je le rappelle, et travaille maintenant à la fédération pour améliorer ça, être le lien du terrain avec les arbitres. Les arbitres vont dans les clubs. Le problème, c'est que certains clubs, comme l'Olympique de Marseille, qui vient d'embaucher un conseiller technique à l'arbitrage. Mais derrière, ça change pas le comportement. Il est comportemental, Christophe. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tes dirigeants, dès que c'est chaud, descendent sur le terrain et disent c'est de la faute à lui, à mort l'arbitre, bah après derrière, ça, tu peux avoir tous les conseillers que tu veux. C'est-à-dire que si tu nommes un gars qui toute la semaine fait de la pédagogie, explique sur le jeu et que le patron descend et dit lui il est nul,
marcher sur ce que ça arrange
beaucoup de joueurs. Ce matin, Lirola qui a fait une entrée catastrophique, qui a pris la place de Merlin pour finir par prendre un rouge, et il est content qu'on parle de l'arbitrage, parce qu'on lui on parle pas de sa presta.
Bien sûr.
Non mais Christophe, tu disais quelque chose de très intéressant. C'est vrai qu'on a eu le cas de figure il y a deux semaines où là le coach de Vannes sort du bois,
et là l'exemple,
et il se prend une volée de tout le monde du rugby.
Il n'a pas encore été jugé, il n'est pas passé encore en commission de discipline.
Qui en France pourrait prendre, on va dire, ce chemin-là et qui pourrait être l'autorité supérieure disant.
Le problème, c'est ça devrait être la Ligue, mais la Ligue, elle est tellement maquée avec tout le monde et la Brune, il n'a pas du tout envie de se fâcher avec ceux qui ont voté pour lui. Donc, c'est pas à la Ligue de le faire. Et la Fédé n'a pas vraiment de pouvoir sur le foot professionnel. Donc elle essayerait
parce
peut-être
que
de faire
quelque chose. Il y a une autre. Non, juste, je voulais lancer David là-dessus parce que tu parlais du rugby, mais en judo, s'il y a bien un endroit où on critique pas l'arbitrage, et l'arbitre, c'est bien au judo aussi.
Bah oui, effectivement. On peut pas faire le millième de ce qui est fait, notamment dans le monde du foot. T'es exclu sur le champ, t'es radié pour X compétition. Puis si tu continues à faire le mariole, t'es radié tout court. Voilà, c'est très clair. Mais les pressions sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes non plus. Encore une fois, je veux pas revenir sur ce que j'ai dit, mais très sincèrement, faut que tout le monde se calme pour que le jeu puisse se faire de manière correcte, que ce soit sur l'arbitrage ou sur le terrain vis-à-vis des joueurs et entre les joueurs, même entre les entraîneurs. Tout ça va prendre des proportions qui, si ça continue et si c'est pas régulé, et il y a que la Ligue et la FFF qui peut le faire, va prendre des proportions qui vont dépasser tout le monde, et on assistera, comme il y a eu des films de science-fiction à l'époque, à des débordements de folie et des actions de folie.
Mais pas qu'au foot, hein. Parce que nous, au basket, par exemple, on a à peu près le même problème, hein. L'arbitre ne peut pas gagner. Dès qu'on a un problème, dès qu'on joue pas bien, dès qu'il y a un petit souci, c'est l'arbitre tout le temps. En fait, l'arbitre, à chaque fois, joue contre deux équipes.
Bon, sachez que ça n'arrive pas qu'en France, évidemment, mais c'était récurrent et nous sommes en France, donc on voulait vous en parler. Hier, il y a eu le match entre Rayo Vallecano et le Real Madrid, et le Real Madrid ce matin, qui crie au scandale d'arbitrage après son nul, 3-3. Quand on s'appelle le Real Madrid, quand on sait ce qu'on sait, c'est un peu dire au Roquefort tu pues quand même, hein, mais bon, voilà.
Non, mais la vérité, faut que tout le monde comprenne que des erreurs d'arbitrage, Fred, Jérôme pourront le confirmer, mais des erreurs d'arbitrage, on en a tous eu contre nous bien et sûr. Pour nous, voilà. Et qu'à la fin, ça s'équilibre, faut pas déconner. Nous ne sommes que des hommes et des femmes en compétition.
Non, mais c'est surtout qu'à aucun moment, il y a une volonté de nuire.
Faut arrêter, quoi.
Il y a des erreurs, tout simplement.
La plus belle image aurait été aussi que ce matin, le corps arbitral monte en pression face aux joueurs et aux dirigeants de certains clubs, et notamment face à la J-Auxerre, parce que hier, sur le match d'après Lens-Auxerre, il y a un Auxerrois qui se roule par terre d'un coup, et j'espère qu'il fera jamais de vélo et qu'il tombera pas, parce qu'il avait limite la jambe cassée. Grâce à la VAR, on avait vu qu'en fait, le Biélorusse avait était passé à 25 cm de sa jambe. Et là, ce matin, le corps arbitral, il n'est pas là en train de dire, oui, les joueurs nous trichent, les joueurs essayent de tricher, les joueurs essayent de nous tromper pour qu'on se trompe et pour qu'on fasse des erreurs. Mmh. Je pense qu'il faut aussi que chacun un peu regarde ce qui se passe dans son club, sur le terrain, et que le football apprenne de ce qui se passe ailleurs, parce que sinon, ça va être tous les week-ends encore une fois pareil. On parlera de tout, sauf du sport, malgré le fait qu'hier, on ait eu un match fantastique.
Ok, on pourra en reparler, dans cette émission. Oui, rapidement, David. Vraiment.
Non, mais ce truc devrait être sanctionné, tu vois, le cinéma.
Il a pris un jaune, il aurait dû prendre un rouge. Il lui met un rouge.
Ouais, voilà, mais plus. Exactement. Faut être plus strict. Quand on sera plus strict, il y aura moins de démesures.
On remercie Joris d'avoir composé le 32-16 supporter de l'Olympique de Marseille. Et puis, vous le savez, sur RMC, jusqu'à Noël, on vous couvre de cadeaux.
C'est quoi ce cirque?
Le grand Noël RMC.
C'est fou, hein? La même voix entre le Père Noël et David Douillet. Une PS5
je suis
Pro.
Le Père Noël.
Un iPhone 16, 10 000 euros. Beaucoup de cadeaux sont à gagner sur RMC. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant Noël au 732-16. Noël au 732-16. Il y aura un très très beau cadeau dans cette émission. Donc vraiment, ça peut vous aussi vous arriver. Et je vous promets un très beau cadeau. Noël au 732-16. A tout à l'heure sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG, notamment l'UCI. Ah, ça y est, enfin, qui veut interdire le monoxyde
merci
de
Marc
carbone.
Madio.
Merci Marc Madio, merci Jérôme Pinault. On est monté au front pour vous. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Jérôme Pinault, David Douillet, Fred Weiss et Christophe Tessieu. À partir de 10h, on ouvre le dossier Tadej Pogacar. Les trois grands tours, le champion slovène doit-il tenter le pari fou? C'est le bras de fer des GG. Et vous n'êtes pas d'accord, ce sera un 2 contre 2. Sachez qu'à 10h45, il y aura les GG contre-attaque, les grandes gueules. Vous pouvez prendre, vous le savez, les commandes de cette émission le dimanche en nous proposant un débat soumis au vote. Allez, quelques secondes pour nous donner l'eau à la bouche. Christophe Cessieux, tu veux nous parler de quoi ce matin?
Vous parlez de rugby et d'un club qui, me semble-t-il, pourrait aller titiller le Stade Toulousain cette année.
Voilà. Alors, évidemment, ne révèle pas l'identité de ce club.
C'est du teasing.
Il y a un club qui peut battre Toulouse.
C'est un club qui bat tous les records en termes d'affluence, qui remplit le stade Chaban-Delmas à chaque fois qu'il se déplace. Mais vous savez pas où c'est Chaban-Delmas.
Non, c'est vrai.
Et ce club, c'est l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles. Et moi, j'ai l'impression que cette année, ils vont peut-être arriver à chatouiller l'ogre toulousain.
C'est la proposition de Christophe Cessieux. Jérôme Pinault.
Eh bien moi, je vais vous parler du départ d'une légende, d'un homme très controversé, mais que moi j'appellerai toujours le boss. C'est l'arrêt de Patrick Lefebvre. Il passe la main depuis 1979. Il est à la tête de grandes équipes, la Mapei, la Quickstep. Il est le recordman absolu de victoire dans les classiques des courses d'un jour. Je veux en parler parce que c'est là.
Il a été ton patron.
Évidemment, 5 ans.
T'as bien payé au moins.
Il m'a très bien payé.
Ah, mais c'est pour ça qu'il va être.
Et c'est une page qui se tourne dans dans les méthodes de management. Dans
Patrick Lefebvre, très bien. David Douillet.
Après ces deux sujets futiles, je voudrais parler d'un sujet extrêmement, extrêmement grave. Grave pour la France. Est-ce que nos politiques et la politique tout court ne va pas définitivement tout gâcher?
Et c'est déjà fait, c'est déjà fait en grande partie.
De l'organisation. Je parle de l'organisation des JO de 2030 qu'on nous a accordé le 24 juillet. Et ça patouille, et ça ratatouille. Tout le monde s'engale le nombril et se mesure ce qu'il faut pas se mesurer. Personne ne décide qui va prendre la tête de cette organisation. Et pire encore, je vous le dévoilerai dans ma chronique. Parce que vous allez voter pour moi. C'est une chose extrêmement importante pour notre pays. Il faut que je vous explique tout ça.
Tu vas voter pour
David Douillet. Bravo, mon cher David.
Tu vas voter pour qui, David, d'ailleurs, pour le COJO des Jeux de 2030?
Je le dirai dans ma chronique.
Ok, dans ma chronique. 10h45, Fred Weiss.
Oui, alors c'est pas très intéressant ce que proposent mes camarades, et surtout David Douillet, parce que c'est en 2030, on ne s'intéresse vraiment pas du tout. Alors je parle de quelque chose de beaucoup plus dans le présent. Il se trouve qu'il y avait d'autres élections que à la Fédération Française de Foot. Il y avait des élections du président de la Fédération Française de Basket aussi.
Et cyclisme aussi.
Celui qui s'appelle Jean-Pierre Suita. Oui,
mais on aurait pu choisir un autre, quoi.
Mais j'ai choisi Jean-Pierre Suita qui a fait 14 ans service de l'équipe de France, de la Fédération Française de Basket, qui est reconnu un petit peu partout comme un grand dirigeant. J'avais envie de faire un petit peu son bilan, parce que son bilan est bon en 14 ans.
Vraiment. Ok, allez voter pour votre débat préféré. C'est donc à 10h45.
Tu penses derrière, c'est ça?
Il n'est plus président.
Ouais, il a laissé des amis.
Allez, on s'en fout pas tout de suite.
Je m'en fous.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Ah, ça c'était à l'époque où Christophe Furios était dans cette émission et on adorait son « je m'en fous ». Ok, et forcément, on lui demandait pas autre chose parce qu'il était assez énervé. Alors, la première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'UCI qui veut interdire le monoxyde de carbone. On s'en fout pas, Christophe?
Non, on s'en fout pas. On a déjà parlé, mais on s'en fout pas.
Non, on s'en fout pas, non.
Fred Weiss.
On s'en fout pas, je vais écouter Jérôme.
Ok, Jérôme Pinault.
Bah, je m'en fous.
Alors, les GG ont-elles fait bouger les lignes? Il y a deux semaines, nous avions fait un débat passionnant sur le monoxyde de carbone. Les propos de Jérôme Pinault et de Marc Madiot ont été repris partout. Écoutez ce que disait notamment Marc Madiot.
Alors, il y a une chose qui est très simple et très facile, c'est de se dire, nous, les patrons d'équipe, on s'engage par écrit et sur l'honneur à ne pas utiliser cette méthode, qu'elle soit bonne, mauvaise, qu'elle apporte un bénéfice ou qu'elle n'apporte pas de bénéfice. On s'en fout. On s'engage à ne pas acheter cet appareillage et à ne pas l'utiliser. Moi, je vous dis, devant les auditeurs de RMC, dans mon équipe, personne n'utilisera cet appareillage.
Alors, Lucie,
je m'y engage.
Pardon, Marc Madiot. L'UCI a annoncé cette semaine qu'elle allait proposer à son comité directeur d'interdire, pour des raisons médicales, l'usage du monoxyde de carbone de manière répétée par les coureurs. Cette décision sera prise par l'organe exécutif de la fédération lors de sa prochaine réunion. Ce sera fin janvier prochain. Alors, cette initiative marque un pas supplémentaire de l'UCI. Après avoir demandé, c'était l'objet de notre débat fin novembre, à l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, de prendre position sur cette technique légale, pour l'instant. Et l'AMA avait dit, on n'est pas en mesure de pouvoir statuer. C'est pour ça que nous avions fait ce débat, parce qu'il faut rappeler que lors du dernier Tour de France, il y avait trois équipes qui avaient utilisé le monoxyde de carbone, dont l'équipe de Tadej Pogacar, dont l'équipe de Jonas Vingegaard. Et j'ajoute, dernière phrase, et après je vous laisse parler évidemment, que cette semaine, l'équipe UAE de Tadej Pogacar, lors de sa conférence de presse de pré-saison, a pris un petit peu les devants en disant, et je pense que c'est un petit peu pour nous, vu le tollé que ça avait fait, qu'ils allaient arrêter le monoxyde de carbone et qu'ils dénonçaient la polémique sensationnaliste autour d'une technique validée il y a 20 ans. Fin de citation. Jérôme Pinault.
Ouais, c'est Mauro Gianetti qui a déclaré ça lors du stage de l'UAE, et je pense que tout est beaucoup sujet à l'hypocrisie, notamment auprès de l'UCI, et ça on n'en est pas surpris. Évidemment qu'il faut interdire ce monoxyde de carbone, mais il aurait même pas fallu fermer les yeux sur l'utilisation de celle-ci par des grandes équipes qui sont à la botte de l'UCI ou l'UCI à la botte de ces grandes équipes. Maintenant, c'est très simple de le faire puisque les grandes équipes ont décidé de finalement de dire que ça fait longtemps que ça existe, on l'a testé mais ça marche pas tellement et finalement on va pas l'utiliser, on fera autre chose. L'UCI est encore une fois de plus ridicule avec ce sujet-là, puisqu'il court après les choses, et c'est quasiment nous, les anciennes équipes ou les équipes actuelles, et il faut un grand dirigeant, un très grand dirigeant comme Marc Madiot, qui prenne vraiment des responsabilités pour que l'UCI dise « bon, bah d'accord, on va le faire ». Ils sont ridicules, c'est eux l'instance dirigeante. C'est encore une fois la preuve qu'ils sont à la traîne et incompétents en la matière.
Oui, c'est pas une prise de parole médiatique qui devrait les faire réfléchir et les faire agir. Mais on a l'impression que c'est un peu comme la cavalerie, l'UCI et l'AMA, tu vois. Ils arrivent toujours après que les Indiens aient déjà encerclé les cow-boys et massacré tout le monde. Ils arrivent. Ah, il s'est passé quelque chose ici. Bon, on va faire les constats, hein.
Ça les arrange.
Ne vous inquiétez pas.
Ça les arrange dans beaucoup de cas, Chris.
C'est fou, quoi. Ils sont jamais à la pointe du truc. Sur les contrôles des vélos dans lesquels il y aurait eu des moteurs il y a quelques années. Ah, ils nous ont trouvé un système là pour inspecter les vélos, mais il n'y en avait plus à l'époque.
C'est l'exemple le plus flagrant et qui est le plus gênant quasiment. C'est qu'on découvre à l'époque des choses comme celle-ci dans des vélos de grands champions, de très grands champions. Et on a été serré une gamine à un championnat du monde de cyclocross, comme ça, ça fait pas trop de bruit. On contrôle, on sait. Et là, c'est exactement, c'est parachute. Bon, on va interdire ça, mais ils savaient très bien que c'était utilisé avant. C'était avant qu'il fallait intervenir. C'est leur rôle, sauf que leur rôle, c'est aussi d'être gentil avec tout le monde et surtout ceux qui ont de l'argent.
Je reprends la main parce qu'on est un peu pris par le temps, les copains, mais vous pouvez aller réécouter ce débat en podcast. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la pluie de record au championnat du monde petit bassin. Évidemment, on parle de natation. On s'en fout pas. Jérôme Pinault.
Mais je m'en fous pas.
Petit bassin, je m'en fous toujours.
Ah oui, parce que c'est pas grand bassin, c'est vrai. David Douillet.
Oui, toi t'es grand bassin.
Ouais, comme Fred, je m'en fous. Tout ce qui est voilà.
Petit bassin, toi aussi, ok. Christophe Cessieux.
Tout ce qui est petit est mignon, mais moi je préfère les grands bassins. Je comprends rien, les petits bassins. Ça tourne trop.
Alors, c'est une première. Avant le dernier jour aujourd'hui, 24 records du monde sont déjà tombés à Budapest à l'occasion des championnats du monde petit bassin. On va justement retrouver notre envoyé spécial, Julien Richard. Salut Julien.
Salut les GG.
Alors comment on peut expliquer ces performances là? L'eau est vraiment très bonne en Hongrie?
Non, c'est très simple, j'y sais, c'est très simple, le bassin fait moins de 25 mètres, comme ça c'est plus facile. Non, il est mesuré tous les jours, après chaque session, après chaque record, donc ça vient pas de là. Bon, il y a pas mal de facteurs, mais on peut peut-être déjà constater une chose, c'est que sur les 24, il y en a 18 qui ont été battus par des Américains ou des nageurs universitaires américains. Le cas de Gretchen Walsh, il est assez significatif. Elle a 21 ans, donc elle est toute jeune. Elle a battu à Budapest 8 records du monde individuels. Il y en a même un 9e avec un relais. C'est une nageuse qui détient déjà les meilleures performances de l'histoire en bassin de 25 yards. Vous savez ce que c'est 25 yards, c'est 22,86 mètres et c'est le format dans lequel se nagent les compétitions universitaires américaines. Elle avait, par exemple, jamais disputé de 100 mètres papillon en petit bassin. C'était la première fois qu'elle le nageait ici. Et la première, ça a été forcément un record du monde. On a posé la question à Maxime Grousset. Hier, lui, il a battu son record de France du 100 mètres papillon. Il a décroché l'argent. Derrière, justement, le nouveau recordman du monde, le Suisse Noé Ponti.
Il y a une explication dans le sens où, moi, j'ai toujours nagé vite ici. Et je pense que ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup nagé en petit bassin. Ils ont fait beaucoup de... On les connaissait, mais en yard, on savait qu'ils étaient très très forts en yard. Donc c'est pas non plus une grosse surprise, mais il faut le faire.
Voilà, les noms comme Gretchen Walsh, Jordan Crooks, qu'il retrouvera tout à l'heure, d'ailleurs Maxime Grousset en finale du 50 mètres nage libre. Ce sont des révélations, mais aussi Regan Smith, Kate Douglas, 4 médailles à Paris chacune. L'Australienne Summer McIntosh, 4 médailles dont 3 titres à Paris aussi. C'est une nouvelle génération qui prend les commandes et... finalement, ça aurait pu être le cas finalement si Léon Marchand avait participé à ces mondiaux. Souvenez-vous, on en avait parlé d'ailleurs ici dans les GG. Il avait jamais disputé de compétition en bassin de 25 mètres depuis 2019. Donc forcément, à chaque fois qu'il serait mis dans l'eau, il y aurait certainement eu des records. Cette inflation des records va en tout cas coûter très cher à World Aquatics, c'est la fédération internationale, puisqu'elle remet un chèque de 25 000 dollars par record du monde. Je sais que vous êtes très fort en maths, 24 fois 25 000. On en est déjà à 600 000 dollars de primes, rien que pour les records du monde.
Eh ben voilà, 600 000 dollars de primes, ben oui, mais c'est comme ça. Voilà, il y a pas mal de... Oui, David, vas-y.
On sait toujours pas pourquoi. C'est parce que le bassin fait moins de 3 mètres d'habitude que ça nage. Enfin, je sais pas pourquoi.
C'est des nageurs très jeunes qui n'avaient jamais nagé en bassin de 25 mètres, David. Donc forcément, c'est des nageurs.
Mais qu'est-ce que ça change 3 mètres de plus?
Ben, c'est juste qu'ils ont nagé. Ils ont jamais de référence chronométrique. Donc forcément,
il faut nager les championnats du monde avant. Et là,
ils mettent de l'eau chez eux. Ça permet aux nageurs de nager.
Ce que je comprends, c'est que très peu de références chronométriques en bassin de 25 mètres. Donc forcément, c'est des nageurs qui ont explosé à Paris.
On n'a plus le temps, on en reparle pendant la pub. C'était super en tout cas. Merci beaucoup Julien Richard. On en reparlera plus tard. Et sachez juste qu'il y a une super interview de Bob Bowman réalisée par Julien Richard où il nous parle justement de Léon Marchand. Vous pouvez aller voir ça sur rmcsport.fr. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour de nouveau parler de vélo avec Tadej Pogacar. Est-ce qu'il doit tenter le défi fou? Les trois grands tours, une même saison, ce serait inédit. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.